je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui est typiquement le programme de seconde, sur l'habitabilité du système solaire. Ne me demandez pas de parler de la vie d'un système solaire, j'en sais rien. Mais l'habitabilité, on sait les choses. J'ai un peu pris un truc grand public, alors je le fais quand même pour vous. On va parler de vie. La vie, c'est beaucoup de choses, et non pas simplement l'homme. Évidemment, vos élèves, quand vous parlez de la vie, ils ne pensent pas forcément aux choux de Bruxelles, aux légumes ou aux betteraves. Donc la vie, c'est tout ça. Ça va de la bactérie à l'éléphant, en passant par le papillon, la moisissure, l'acarien, la méduse, etc. Mais ça, vous savez. Là, toujours pareil, c'est pour le grand public. Et si vous demandez, par exemple, je sais pas, à des élèves, qu'est-ce qui est vivant là-dedans, ils vont vous dire, évidemment, il y a un animal, une biche. Beaucoup moins penseront aux plantes. Et encore, beaucoup moins penseront aux milliards de bactéries. Et dans ce paysage, c'est surtout, évidemment, des bactéries qu'il y a en nombre d'individus. Alors, on va chercher des possibilités de vie, et pas simplement pour les êtres grands, compliqués, avec les lasers intégrateurs, hein, les aliens. A priori, si dans le système solaire, un jour, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose, on a beaucoup plus de chances de trouver, je ne dis pas des bactéries, ce ne sera pas des bactéries, mais des petites choses relativement simples, plutôt que des gros machins complexes, comme ça. Je ne vais pas tenter de définir la vie. Il y a au moins 2500 ans que des penseurs essayent de définir la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie, etc., etc. Avec un infernal problème, c'est le problème des limites. Alors, les limites qui se posent, même quasiment dans la vie de tous les jours, quand il y a quelqu'un qui meurt, avant, on mourait quand on était déclaré mort, quand on mettait une vite dans la bouche, et quand il n'y avait plus de bouée, c'était quand on était mort. Et puis après, on disait c'était l'arrêt du cœur. Maintenant, c'est l'électrocéphalogramme plat. Donc, les définitions de la vie, les limites de la vie, autant c'est pas de problème si je décrète que madame est vivante. Il n'y a pas trop d'ambiguïté, madame a l'air vivante. Il y a le problème des limites du début et de la fin, et également il y aura le problème des limites quand ça a commencé. À partir de quand peut-on dire qu'on est vivant? Je ne parlerai pas de ce problème, parce que c'est trop compliqué. Et je ne parlerai pas des vies, je vais dire, exotiques. Les vies exotiques, les êtres de science-fiction, imagine de la vie au silicium, j'ai mis des êtres ectoplasmiques qui flottent dans les galaxies. Je vais parler de la vie bien de chez nous. Ça ne sera pas évidemment, s'il y a de la vie dans le système solaire, nos espèces, on ne trouvera pas ni de choux de Bruxelles, ni d'Homo sapiens, mais on trouvera une vie, a priori, on va chercher celle-là. Alors, cette vie, bien chez nous, on va pouvoir regarder, elle a quatre caractéristiques et exigences. La première, c'est le carbone. Les chimistes, la vie, c'est des choses très compliquées. Imaginez une bactérie qui respire, Mozart compose un opéra. Prenons Mozart qui compose un opéra. Pour composer un opéra, il faut un certain nombre de réactions chimiques et bioélectriques dans le cerveau, assez complexes. Et pour ça, les chimistes nous disent qu'il faut des molécules abominablement complexes. Et sur les 92 éléments que Dieu a voulu faire dans son infinie sagesse, il n'y en a qu'un qui peut faire des molécules aussi complexes, et aussi variées et aussi réactives, c'est le carbone. Donc, on va chercher des endroits où il y a du carbone. Il n'y a pas de carbone, on va dire, il n'y a pas de vie, comme chez nous. Il y a peut-être de la vie au silicium, mais on ne va pas s'en occuper. La vie, donc, c'est à base de carbone, et pas de carbone tout seul, hein, ce n'est pas des diamants, ce n'est pas du charbon, c'est des carbones associés à l'oxygène d'autres atomes. Et la vie, elle a deux solutions. Ces molécules carbonées, soit elle les fait toutes seules. Alors, pour les gens qui savent, on appellera ça des autotrophes, on prend des toutes petites molécules, genre CO2, mais il faut de l'énergie, et on fait des grosses molécules, soit comme nous, on les prend toutes faites, en mangeant. Ce n'est pas désagréable, c'est bon. Premier exemple, je chercherai du carbone. Deuxième exigence, pour que c'est commencé, maintenant la vie, soit elle prend les molécules toutes faites, soit elle les fait, mais il a bien fallu que ça commence un jour. Donc pour que ça commence un jour, il fallait qu'on ait de la présence de matière carbonée complexe, mais non vivante. Je ne parlerai pas de l'étincelle de la vie, mais il faudra chercher où est-ce qu'il a pu y avoir, avant la vie, des molécules complexes toutes faites. Et on ne parlera pas, c'est dommage, là encore, du passage de ces macromolécules abiotiques complexes à la première forme de vie. Là également, c'est une chose dont je ne parlerai pas. Puis le géologue n'a pas beaucoup de choses à dire, c'est peut-être le biochimiste, etc. Le géologue, tant qu'on ne trouvera pas de fossiles prébiotiques, le géologue, il n'a pas grand-chose à dire. Donc deuxième exigence, avoir eu dans le temps des molécules complexes. Troisième exigence, c'est laquelle tout le monde pense, pour qu'il y ait des réactions chimiques qui se fassent assez vite, il faut que ces molécules soient dans un solvant. Et l'idéal, c'est un solvant où on peut dissoudre, mais également, un milieu où on peut suspendre. Alors, il y a plein de solvants possibles et imaginables, mais il se trouve que l'eau liquide, elle est à la fois solvante, on peut dissoudre plein de choses, et elle peut faire également des bonnes suspensions, si vous avez, parce que comme c'est une molécule polaire, vous pouvez avoir des molécules, l'eau est polaire, des molécules hydrophiles, hydrophobes, donc vous pouvez avoir plein de suspensions. Prenez par exemple le méthane, c'est bien le méthane, vous dissolvez plein de choses, méthane liquide, mais c'est beaucoup moins polaire, parce que c'est pas polaire. Donc ça a beaucoup moins de possibilités, de potentialités que l'eau. Alors vous pourriez avoir l'ammoniac, liquide, qui est bien aussi, parce que c'est polaire, et ça dissout plein de choses. Nous, on va chercher la vie normale avec de l'eau liquide. Donc, on cherchera de l'eau liquide dans le système solaire. Et une chose dont beaucoup de gens pensent rarement, c'est l'énergie. Pour que la vie vaque à ses occupations, une fois qu'elle est née, elle a besoin d'énergie. Soit en prenant des grosses molécules toutes faites qui contiennent de l'énergie, c'est nous. Soit en prenant de l'énergie venue de l'extérieur. Il faut qu'il y ait des gens qui pompent pour que la vie marche. Il faut de l'énergie noble. Par exemple, vous êtes tous quand même plus ou moins biologistes. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui disent, au niveau, quand il y a une source hydrothermale, au fond de ce sang, il y a plein de bêtes, de bactéries, qui disent c'est la chaleur qui fournit l'énergie. La chaleur, c'est une énergie très dégradée. Si vous prenez du gaz carbonique, de l'eau et de la chaleur, vous prenez de l'eau Perrier, chauffez-la, vous ferez rarement du glucose en chauffant de l'eau Perrier. Hein? Parce que l'énergie de la haute température, c'est totalement dégradée comme énergie. C'est pas avec ça qu'on va faire des grosses molécules, et qu'on va pouvoir utiliser cette énergie. On a besoin de machins beaucoup plus nobles pour vivre. Belle noblesse, c'est par exemple des photons lumineux et assez énergétiques. Donc on va chercher de l'énergie. Donc on va étudier ces quatre caractéristiques et exigences, le liquide, le carbone, les molécules complexes initiales et l'énergie. Et on va voir où, dans le système solaire, on a ces A ou AU, ces quatre machins-là. Alors on va commencer par l'eau liquide, là c'est de la géologie pure, on va chercher l'eau liquide dans le système solaire. Beaucoup de mes étudiants s'imaginent qu'il y a sur la Terre qu'il y a de l'eau liquide. Ça, c'est les mauvais. Après, ils disent, oui, il y en a eu dans le temps, sur Mars. C'est les moins mauvais. Peu de gens savent qu'il y a de l'eau liquide dans plein d'endroits sur Terre. Par exemple, là, j'ai marqué l'océan d'Europe, le geyser d'Encelade. L'eau liquide ailleurs que sur Terre, il y en a quand même dans plein d'endroits. Alors, d'abord, on va regarder Mars. Alors, l'eau sur Mars est connue depuis le XVIIe siècle. 1666. Cassini-Huygens voit des calottes polaires qui changent de taille. À l'époque, on se posait pas de problème. Du blanc qui était petit l'été et grand l'hiver, ben, il neige, il y a de la glace. Alors, il disait, ben, s'il y a de la neige qui fond, je pense qu'on ne se causait même pas la sublimation à l'époque, au XVIIe siècle, ils imaginaient des rivières et tout ça. Que le blanc soit de la glace d'eau, ça a été prouvé par des spectateurs en 1964. Donc, on a la preuve formelle qu'il y a de l'eau sur Mars, au moins solide, en 1964. Il y a encore des fois des journalistes qui disent « Mais est-ce qu'on est sûr qu'il y a de l'eau sur Mars ?» 1666, fort soupçon, 1964, preuve. Et on a la preuve, depuis 71-72, avec la mission Mariner 9, qu'un liquide a coulé à la surface de Mars, avec des lits de rivière, etc. On veut savoir si cette eau liquide, qui n'existe plus à la surface actuellement, dit-on dans les mauvais livres, parce que vous verrez qu'il en existe quand même, on va voir si cette eau liquide a pu, quand elle coulait, permettre l'existence d'une chimie prébiotique, une molécule initiale, voire même, pourquoi pas, une vie ancienne. Alors j'ai mis primitive parce qu'elle est précoce, ça ne veut pas dire qu'elle est archaïque. Alors actuellement, il ne peut pas y avoir de liquide sur Mars parce que la pression est trop faible. Là, c'est le bulletin météo du 16 août 2012. La température de l'air, ce jour-là, allait de moins 11 à moins 71. La température du sol, qui est assez sombre, elle est de moins 89, mais à plus 4. Donc il dégèle la surface de Mars, enfin au moins le sol, bien au soleil, il dégèle. Le problème, c'est la pression, qui étant suffisamment faible, si on dépasse les 0 degrés, s'il y a de la glace, elle se sublime, et il n'y a pas d'eau liquide à l'équilibre avec cette gamme de pression et température. Mais beaucoup de gens disent qu'il fait trop froid, la moyenne est froide, c'est moins 50 en moyenne, et en plein été, hein, c'est le solstice d'été. Mais vous voyez que le sol, c'est mesuré directement par un thermomètre. Et là, la pression de vapeur saturante, il y avait 8% d'humidité dans l'atmosphère ce jour-là. Et le vent soufflait, il y avait du vent ce jour-là, le vent soufflait à 87 km/h. Mais comme la pression est très faible, 87 km/h, ça ne vous emporte pas trop. Ça suffit pour emporter des poussières, mais pas du tout. Alors 87 km/h, ça commence à dépoter. Actuellement, donc, il ne peut pas y avoir d'eau liquide, mais il y en a eu dans le temps. Alors, il y a plein de photos, je vous montre cette photo, une belle vallée qui arrive dans un jour avec un super delta. Alors, ça, c'est de l'eau liquide ancienne, et disons que jusqu'à 3 milliards et demi d'années, si on compte les cratères et tout ça, il y en a. Est-ce qu'il y aurait aujourd'hui encore de l'eau liquide sur Mars? Parce que le thème de la conférence, c'est la liquidité ancienne et actuelle. Ancienne vis-à-vis de l'eau liquide, oui. Actuellement, y a-t-il de l'eau liquide sur Mars? Alors, le sol est plein de glace. On le sait de plusieurs façons. Alors, dans les latitudes polaires, disons à partir de 60 degrés d'altitude nord, pour l'équivalent de Dunkerque, eh bien, il y a plein de glace dans le sous-sol superficiel. Et ça peut se voir de plein de façons. Je vous en montre une illustrée. Ça, c'est une photo qui a été prise en juin 2008. Vous voyez l'échelle. Et là, c'est en août 2008. Il y a un truc de plus. Il est tombé une petite météorite sur Mars qui s'est cassée dans l'atmosphère et ça fait des petits débris. Alors là, ça n'a pas fait de cratère. La météorite était toute petite. Mais des fois, ça fait des cratères. Alors, cette météorite, là, vous avez un cratère qui n'existait pas en 2008. Quand la sonde est passée, il n'y avait rien. Et il existait en 2010. Donc, il s'est fait entre 2008 et 2010. Il mesure à peu près 15 mètres de diamètre, 2 mètres de profondeur, et les débris, les éjectats, sont blancs. Et les spectres montrent que c'est de la glace d'eau. Donc à moins de 2 mètres de profondeur, il y a de la glace d'eau. Là, on est par 63 degrés de latitude nord, ça serait pareil au sud. Donc il y a de la glace d'eau qui est vraiment pas très loin de la surface, puisqu'il y a un trou de 2 mètres, la met à jour. Alors il y a de la glace. Cette glace, quand on s'enfonce, il va faire chaud. Degré géothermique, j'ai inventé le mot degré marsothermique, qui est un barbarisme, parce que ne reprend la racine grecque, j'aurais dû mettre degré aresothermique. Arès en grec. Donc la température moyenne est de moins 50 à l'équateur, moins 100 au pôle, pour simplifier. Si on suppose un degré géothermique à peu près le tiers de celui de la Terre, ce qui est raisonnable de la taille de Mars, il suffit de s'enfoncer. Et par exemple, vous enfoncez à l'équateur de 5 km, et la glace qu'il y a dans le sol, eh ben, devient liquide. À l'équateur, 5 km, au pôle, il faudra se porter peut-être. Donc de la glace, il y en a, et de l'eau liquide, il doit y avoir dans le sous-sol, comme dans le sous-sol terrestre, hein, la croûte terrestre est pleine d'eau, à partir de 5 à 10 km de profondeur. Donc l'eau liquide, il n'y a pas de problème sur Mars, il y en a. Mais c'est de l'eau liquide profonde. Pour la photosynthèse, c'est pas bon. Est-ce qu'il y a de l'eau liquide superficielle? Oui. Mais alors superficielle, subrécente. On a découvert, il n'y a pas longtemps, 3-4 ans, que quand vous avez des versants sud, quand je dis sud, exposés au sud, dans l'hémisphère nord, ou exposés au nord, dans l'hémisphère sud, ils prennent plein de soleil, on voit apparaître des traînées sombres qui n'existaient pas l'hiver, qui se développent au printemps, qui sont la majorité grande en été, et qui disparaissent l'hiver suivant. Alors voilà une vue de ces traînées sombres qui ont posé des problèmes, vue de plus près. Inexistante l'hiver, apparaît au printemps, s'allonge l'été et disparaît l'automne. Quand je vous dis qu'il y a des mouvements, là les mois que vous avez, c'est converti en mois terrestre de l'hémisphère nord. On est au mois de mai, on en voit presque, il y a un petit machin noir ici. Au mois de juin, ce petit machin noir a grandi. L'échelle, vous avez là, ça fait 100 mètres. Hein. Au mois de juillet, ça a un peu grandi, il y en a un autre qui apparaît là. Et au mois de août, celui-là ne bouge plus, celui-là grandit. Il y a quelque chose du sombre qui avance une centaine de mètres, donc, en 2-3 mois. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? L'interprétation qu'on donne, c'est la chose suivante. Le sol est plein de glace. La glace, ça fond à 0 degré, car c'est de l'eau distillée. Si, par exemple, c'est de l'eau très salée, saturée en sel, ça fond à moins 20. En plein soleil, rappelez-vous, la température pouvait passer au moins 4, le jour du solstice de 2016. Donc, la glace peut atteindre sa température de fusion. Si ça fond dans le vide, c'est pas, ça ne fond pas, ça sublime. Par contre, si vous êtes un peu profond, sous 10 mètres de sol, il y a suffisamment de pression, 10 mètres de profondeur, c'est assez, la pression-là peut permettre de fondre. Et ce qu'on pense, c'est très complexe, hein, c'est que il y a de la fusion de la glace superficielle, et il y a un jeu subtil, et cette eau liquide progresserait, pas tout à fait en surface, mais dans les éboulis poreux, choses comme ça, il y aura un front d'humidité qui avancerait pendant l'été, il fait bien chaud. Près de la surface, ça s'évapore, mais à partir d'une certaine profondeur dans la roche, ça coulerait. Et ça peut progresser, donc, vous avez vu, de largement une centaine de mètres. Donc ça fera un front d'humidité, un peu comme chez vous, hein, quand c'est humide, et puis que ça remonte le long des murs, là, il y aura, là ça descend. Donc, c'est vraiment à l'état d'hypothèse, mais il y a quelque chose qui se passe. Il peut y avoir encore de l'eau liquide à la surface de Mars. Et ça, c'est souvent pas bien dit dans les cours, hein, alors que c'est connu depuis une petite dizaine d'années. Donc il y a de l'eau ancienne, et puis très localement, de l'eau moderne, quand je dis l'eau, ou liquide. Pour étudier ces témoins humides du passé, on a envoyé des missions. Il n'y a encore aucune mission qui est prévue pour étudier ces petits pissous actuels. Mais les pissous anciens, il y a plein de missions qui ont été envoyées, dont le but est vraiment de faire de la géologie, de la paléogéographie pour reconstituer les conditions anciennes. Et je vais donc Sojourner en 1997, Spirit et Opportunity en 2004, si je parle de départ, et Curiosity partir en 2012. Il y a Opportunity et Curiosity qui marchent encore. Celui-là, c'est normal. Celui-là, ça fait 11 ans qu'il est sur Mars. Il a dépassé les 42 km, je ne sais pas combien, donc il a fait plus qu'un marathon, alors qu'il était prévu pour 3 mois, 600 mètres. Et donc, il a fait 11 ans et 42 km et quelques. Alors, on va voir quelques résultats de ces deux missions-là, simplement, concernant l'eau liquide. On va regarder que ça. Alors, Opportunity, tout à fait par hasard, s'est tombé dans un tout petit cratère. Il s'est posé dans un petit cratère. C'était bien parce que c'était à l'endroit où c'est possible, un champ de dunes très monotone et très ennuyeux. Mais dans le cratère, c'est du sable partout, sauf sur à peu près un sixième de sa surface, de sa circonférence là, où il y a des rochers. Alors ce cratère fait une vingtaine de mètres de diamètre pour à peu près 2 mètres de profondeur. Et tout de suite, ce qu'il a vu, c'est en regardant donc les rochers qui sont là, il a vu qu'il y avait une falaise. Et quand on regarde la falaise, on voit, ça fait 75 cm de haut, c'est pas une falaise énorme, on voit des strates. Or, il s'est posé par là, parce qu'on savait qu'à côté, il y avait des strates. Hein. Mais là où il s'est posé, on le voyait directement. Alors, des strates de quoi? Ça peut être des coulées de lave, ça peut être des cendres volcaniques, ça peut être des sédiments éoliens. Le but, c'était de trouver des sédiments aquatiques. Et on avait de bonnes raisons de penser qu'ils l'étaient, vu les études d'orbite, mais là, vu de loin, on ne sait pas. Alors, il faut s'approcher. Le robot s'approche, et tout de suite, il voit dans les stratifications, regardez le détail qu'on arrive à voir, ça c'est 2 cm, c'est vraiment le qui met le nez sur la flamme. Hein. On voit des stratifications, alors des fois les strates sont inclinées, c'est pas les strates qui sont inclinées, hein, c'est le robot qui est incliné. Les strates sont assez horizontales, des strates assez horizontales, mais avec des figures de progradation. Et vu la granulométrie, pas forcément ici, mais il y a des éléments qui sont assez gros, donc c'est pas transporté par le vent. De l'eau ici, accumulée, alors je vous donne l'équivalent terrestre. C'est des dépôts déposés par un courant, on peut voir ça sur une plage, etc. Et si vous comparez les strates qui sont comme ça, ici, et ce qu'on a vu sur Mars, ça c'est sur Terre, ça c'est sur Mars, c'est exactement la même chose, apparemment. Et ici, le géologue va vous dire l'eau a coulé comme ça, donc sur Mars, on peut voir la direction de l'eau a coulé sur Mars, il y a 3,5 à 4 milliards d'années, et a déposé on peut faire de la sédimentologie sans problème. Alors, on a trouvé également, Opportunity, dans des sédiments, qui là, le robot est bien placé, c'est parfaitement horizontal, il y a des trous. C'est une paroi verticale, hein, ça fait 50 cm peut-être. C'est comme si on prenait une motte de beurre, avec une verticale, puis qu'avec un couteau, on donne des coups dans la paroi de la motte de beurre verticale, ça fait des trous qui s'enfoncent à l'horizontale. Alors, ces trous ont, pour certaines formes géométriques, un losange, et là, n'importe quel géologue se dit, ça se rappelle ce qu'on appelle des pseudomorphoses. Là, il n'y a même plus le trou de gypse, par exemple, ou de sel, pas du sel, ici, c'est un trou de gypse, qui a cristallisé dans de l'argile. Et puis, si on dissout le gypse, eh bien, il reste un trou qui a la forme du cristal. Alors voilà, sur Terre, des cristaux de gypse, qui ont la même forme que tout à l'heure, ça c'est mon doigt qui vous donne l'échelle, dans des marnes. Si vous dissolvez le cristal de gypse, eh bien, il restera des trous qui ont cette forme-là. Alors ici, les instruments ne permettaient pas de dire que c'est du gypse. Mais Opportunity a permis de le dire, il y a des sulfates de calcium. Dans quel contexte se dépose ce genre de truc? C'est évidemment sur Terre. Voilà dans quel contexte peuvent se déposer des sulfates type gypse. Et peut-être que le paysage sur Mars, au flamant rose près, ressemblait à ça il y a 3 milliards et demi d'années. Alors Opportunity quitte son petit cratère, il est quand même resté 6 mois dans son petit cratère à faire plein de choses, puis il est parti, il a visité, il a fait 42 km. Et alors, il a vu des paysages absolument grandioses, etc. Je vous montre quelques paysages concernant l'eau, regardez cette coupe stratigraphique, il y a même une discordance là. Là, vous avez des couches inclinées. Ça, là, c'est des sédiments éoliens, ça peut être étudié. Là, c'est des sédiments certainement aquatiques, je vais vous le prouver tout à l'heure. Une de belles strates sur 7 mètres d'épaisseur de sédiments. Alors, il y a des endroits où il y a ces craquelures. Alors, ce n'est pas des formes de défication. En fait, on ne sait pas trop ce que c'est que ces craquelures, donc j'en parle pas. Mais on va zoomer dans ce coin-là, où il roule sur ces roches. Et voilà, par exemple, le genre de choses qu'on voit. Vous avez l'échelle, 3 cm. Et regardez, j'ai marqué F comme feston, festoon en anglais. Si vous regardez, il y a des ondulations, et des ondulations symétriques. Là, vous avez la même chose sur Terre. Et les ondulations symétriques, c'est pas dû à un courant de vent ou d'eau, c'est dû à du clapot. Des petites vagues qui montent et qui descendent. Et pour faire du clapot, il faut de l'eau liquide. L'air, on ne veut pas de clapot avec de l'air. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la longueur d'onde de cette mini-dune symétrique est du même ordre de grandeur que l'épaisseur d'eau. Là, je vais lui mettre une photo. Bon, c'est pas très symétrique, mais c'est pas grave. Et la longueur d'onde, si c'est des rides symétriques d'un clapot, mettons là, ça fait 10 cm, c'est-à-dire qu'elles sont faites à peu près 10 cm d'eau. C'est en ordre de grandeur, ça peut être 20 ou 5. Ça voudrait dire, là, sur Terre, sur Mars, que on était une flaque d'eau de quelques centimètres de profondeur, on n'était pas une mer très profonde. Il y a des courants dans les mers très profondes, mais ça fait des rides dissymétriques. Alors, l'appareil Opportunity pouvait faire de la chimie avec des instruments assez grossiers. Il n'avait pas de rayons X pour faire de la cristallographie, etc. Il n'a pas bien pu déterminer les minéraux. Le seul qu'il a pu déterminer, parce que son instrument magnétique permettait d'analyser que les minéraux contenant du fer. Devant du gypse, il pouvait dire, bon, je vois quelque chose, ça a une forme de gypse, il ne peut rien dire. Mais s'il y a le minéral contenant du fer, la pyroxène, il pouvait le trouver. Or, il a trouvé un sulfate contenant du fer qu'on appelle la jarosite. Donc vous avez la formule ici. Et la jarosite n'est stable qu'en pH acide. Par exemple, quand vous avez des sources sulfureuses avec acide, vous avez donc cette jarosite. Ce qui veut dire que les eaux martiennes, localement, devaient avoir un pH très bas, du genre 2, 1, 2, 3. Pour la vie, c'est absolument pas un problème. Il y a plein d'êtres acidophiles. Nous-mêmes, on aurait du mal. Mais pour la vie, c'est pas un problème. Alors, on va changer de mission. Ça, c'est Opportunity, qui s'est arrivé en 2004. Ça fait 11 ans qu'il est. Il y a Curiosity qui s'est posé en août 2012, donc ça fait 2 ans et demi qu'il y est. Le but d'Opportunity, c'était étudier cette séquence de roches-là, où il y a sur 1500 mètres d'épaisseur de strate. Donc, leur but, c'était de se poser en bas et de monter. Il allait avoir 1500 mètres d'histoire géologique martienne. Alors, il y avait des problèmes techniques, il ne fallait pas se poser trop près de la montagne, donc on dit, il s'est posé là. Ça, c'est l'élite de confiance, on ne vit pas très bien. En fait, il s'est posé dans le point rouge, donc et il est en train de se diriger vers... il vient d'atteindre les premières couches de base de cette montagne. Sinon, le cratère a été rempli de débris postérieurs à sa cible. Tout ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'il a étudié sur le trajet pour atteindre sa cible. Si je reviens dans 3-4 ans, peut-être qu'il aura fait 1000 mètres de montée, si j'en reviens, et qu'on aura la coupe complète. Alors donc, les strates, elles sont là-bas, donc c'est la cible, c'est là. Alors, il y a un autre problème, c'est qu'il y a un cordon de dune. Et il fait le tour pour ne pas s'en viser. Donc c'est pour ça qu'il met longtemps pour atteindre sa cible. Et voilà ce paysage qu'il voit. Donc la montagne fait 4000 mètres de haut. Et on est à le sommet est à 20 km. Il y a toujours ces espèces de dalles, donc on n'est pas bien l'origine. Et voici les strates qu'il va analyser, s'il arrive. Donc là, il est par là. Et regardez ça, c'est extraordinaire de voir ça. Donc, il va faire, si tout va bien, de la bonne vieille sédimentologie. Alors, en attendant, donc, il s'est posé là. On a pu reconstituer la géologie, il veut aller là. On a reconstitué la géologie de l'endroit sur lequel il se promène maintenant. En fait, ce trou a assez tardivement été rempli par un lac temporaire, je vais vous le démontrer. Et donc, en roulant vers sa cible, eh bien, il roule sur le fond d'un ancien lac. Ce qu'on avait à moitié prévu, mais qu'à moitié. Donc, il voit des choses intéressantes. Et, par exemple, il voit des couches. Alors, et c'est des couches de grès. Ou de conglomérats. Alors, voilà des détails de ces couches. Si on zoome sur cette couche, vous avez donc 5 conglomérats avec des galets ronds. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui roulait les galets sur Mars, et quand on roule des galets, ça fait rond. Donc le paysage dans lequel ce truc-là s'est déposé, regardez, ça c'est sur Terre, ça c'est sur Mars, l'analogie est frappante. ça doit être un genre de paysage comme ça, dans lequel ces bandes de grès et de conglomérats se sont déposées. Alors, quand on roule, on voit des fois des stratifications très obliques. Rappelez-vous des stratifications obliques de très petite taille, qu'on a vues la dernière fois. Pour les beautés de la pédagogie, j'ai retourné les photos, mais ça ne change pas grand-chose. Eh bien, on peut voir la même chose à toutes les échelles. Par exemple, en beaucoup plus grand, là, c'est un morceau du robot. Vous avez là des strates et dessous des strates inclinées d'une autre façon. Ça montre, regardez ça comme c'est beau, le même affleurement, la dynamique des courants dans cet ancien lac. On n'est pas sur la cible. Je rappelle qu'on est... C'est du bonus qu'on voit là. Il y a vraiment des courants. L'ancien courant devait couler comme ça, si c'est des progradations normales. Là, ça coulait comme ça. Donc, dans notre lac, les courants changeaient de sens et divaguaient. Là encore, quand vous voyez la taille des galets bien arrondie, ça ne peut pas être du vent qui transporte des galets gros comme ça sur Mars, surtout avec la pression très faible. Donc je me suis amusé, quand je fais des machins grand public, montrer ces figures de discordance sédimentaire, martienne et terrestre. J'ai mis une comparaison comme je les aime, pour le cas où les gens n'auraient pas compris, pas de problème. Alors, il y a de l'eau liquide qui a coulé en surface, mais elle n'a pas fait que couler en surface. Il y avait certainement tout un réseau de circulation de fluide dans des fractures et tout ça. On va regarder par là, et vous avez tout un réseau avec des filonets, des filons. Il y a de l'hydrothermalisme. Alors là, il n'a pas pu aller analyser de près, parce que là, le robot, quand même, il n'est pas allé, il n'a vu que de loin. Mais il y en a à peu près la même chimie à côté. Et dans ces machins-là, ceux-là, j'en sais rien, mais il a pu montrer qu'il y avait pas mal de filons de gypse. Tout un réseau de filons hydrothermaux. Alors en plus, ces observations traditionnel, là, le géologue peut le faire comme ça, en se promenant, les Curiosity qui se fait des selfies, parce qu'il a une caméra, enfin plein de caméras au bout de son bras. Là, vous avez un bras qui est à moitié replié, il fait hop, 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 et il y a une caméra là. Donc, il peut, avec ce bras, s'il le déplie, photographier tout le robot, sauf lui, le bout de son bras lui-même, mais avec les caméras là, il peut photographier le bout de son bras. Donc ensuite, avec un Photoshop bien fait, on reconstitue. Et voici Curiosity qui s'est fait son selfie. Là, elle a fait deux petits forages. Alors, quand on dit forage, c'est un peu d'abus de langage. Il a une mèche à percussion, à peu près la taille de mon doigt. 6 cm de long, 1,5 cm de diamètre. Moi, ça me fait peur, parce que quand je fais une forage à percussion, je vibre tout. Ça doit vraiment ébranler complètement le robot. Mais enfin, c'est comme ça. Et ça fait de la poudre de roche. Et avec ça, il peut l'analyser de différentes façons. Alors, voici les résultats de préliminaires déjà publiés. Toutes ces couches et ces roches ont été étudiées, sont déposées dans l'eau courante d'un ancien lac. L'eau peu salée, avec un pH neutre. Il a trouvé par exemple des smectites, momorionites, qui ne sont stables qu'en des argiles de pH neutre. Ça aurait été calonite, on a des pH acides. Si c'est des smectites, c'est sûr, c'était neutre dans cet ancien lac. Et cet ancien environnement, je ne vous dis pas tout ce qu'il a fait, aurait été, à l'époque, tout à fait habitable par la majorité des bactéries terrestres actuelles. De l'eau, pas trop salée, pH neutre, vous mettez Escherichia coli dedans, il vit très bien. Et en plus, ce pH neutre est une condition a priori favorable à la chimie prébiotique. Par exemple, s'il y a des acides aminés, si on veut les polymériser avant la vie, ça se polymérise bien mieux en pH neutre qu'en pH acide. Donc, c'est bon. Voilà pour Mars. Vous voyez que vis-à-vis de l'eau liquide, c'était habitable, et peut-être même, vous avez vu le petit pissou aujourd'hui, et tout ça en profondeur, passé 5 km de profondeur, vous avez de l'eau liquide sur Mars. On va changer de monde, on va aller voir deux satellites de Jupiter. Alors les planètes géantes, il y a 17 gros satellites autour des planètes géantes. Jupiter, Saturne, Uranus, et puis quand je dis gros, c'est plus que 500 km. Suffisamment gros pour que la gravité les fasse rond. Sinon, ça fait de l'infâme pâte atomique. Sur ces 17, il y en a 15 qui sont majoritairement faits de glace d'eau, un qui est fait de roche, io, et un qui est fait de roche, mais recouvert d'eau. Vu la température, c'est évidemment de la glace. Alors, ces satellites ont une densité à la louche entre 1,5 et 2, on va dire 1,5 pour simplifier. Et pour faire une satellite de densité 1,5, vous prenez 3 volumes d'eau, un volume de cailloux, vous mélangez. Ça fait 4 volumes de densité 1,5. Donc ces satellites, sauf ceux-là, ça doit avoir une structure à peu près comme ça. Donc en volume, 3 volumes d'eau pour un volume de cailloux. Cailloux, c'est cailloux plus fer. Comme les rayons croisent comme le cube des volumes, en rayon, il y a plus de cailloux et de fer, mais il est au centre, donc ça fait tout moins. Enfin, ça compte moins. Ça prend moins de place. Donc voilà typiquement la structure des satellites de glace.
on est la température moyenne extérieure est à moins 200 à peu près, mais voire plus froid si on va plus loin. Alors, est-ce qu'il peut y avoir de l'eau liquide là-dedans? Alors, quand les satellites sont gros, et ils peuvent être très gros, ça c'est Ganymède, c'est le plus gros sous, 5276 km, c'est plus gros que Mercure. Le programme en seconde vous demande bien d'étudier les planètes, mais les satellites, on ne sait pas pourquoi, mais on en parle très peu, alors qu'il y a des satellites plus gros que les planètes. Vous avez ici Ganymède, et on peut se dire qu'il est suffisamment gros, peut-être qu'il y a suffisamment d'énergie, alors d'origine, radioactivité comme sur Terre, chaleur résiduelle qui est conservée, voire à côté les Jupiter qui fait des marées qui chauffent, est-ce que là-dedans, il pourrait y avoir de l'eau liquide? Et des satellites assez gros pour que, a priori, il puisse y avoir de l'eau liquide, il y en a quatre. Ganymède, Titan, Ganymède, satellite de Jupiter, Titan de Saturne, Callisto, autre satellite de Jupiter, et Triton, satellite de Neptune. A priori, ils sont assez gros pour que, en s'enfonçant, on puisse atteindre une température de fusion de la glace, donc plus que 0 degré. Alors, quand on fait des modèles, ce ne sont que des modèles, on n'a pas d'observation, sur la structure de Ganymède, voilà à quoi on arrive. C'est des modèles où on met tout ce qu'on connaît raisonnablement, la radioactivité naturelle, le chauffage dû aux marées à cause de la proximité de Jupiter, etc. La densité, on obtient un satellite, je rappelle que ça fait 5000 et quelques kilomètres de diamètre, donc 2600 de rayon. Il y aurait donc la partie haut, la partie silicate plus fer, et dans la partie haut, en haut, c'est de la glace, évidemment. En dessous, c'est de l'eau liquide. Et en dessous encore, c'est de nouveau de la glace. Mais de la glace à haute pression, voici avec les modèles la taille raisonnable que ça doit pouvoir avoir, 100 à 200 km de glace normale, 150 à 200 km d'eau liquide, et 300 et quelques, ce que j'ai appelé de glace de haute pression. Alors, qu'est-ce que c'est que la glace de haute pression? Parce que de la glace en surface, c'est normal, il fait moins de 200 degrés. Plus on s'enfonce, plus il fait chaud, à cause du degré, on va dire, ganymédo-thermique. L'eau est liquide, c'est normal. Pourquoi est-ce qu'en profondeur, les modèles mettent de nouveau de la glace? C'est parce que l'eau, à la température ambiante, gèle. Quand on augmente la pression d'un corps, ça la fait, un corps liquide, ça la fait cristalliser. Quand on décomprime un corps solide, ça le fait fondre. Tout le monde sait ça pour le manteau. Le manteau, sous une dorsale, il est bien chaud, mais comprimé, donc solide. Il monte, sous une dorsale ou un point chaud, il monte, à température quasi constante, sa pression diminue, il fond. Et bien c'est pareil avec l'eau. L'eau gèlerait sous son propre poids sur Terre à partir d'à peu près 80 km de profondeur, à la température du fond des océans. Si on avait des océans de 80 km de profondeur, il y aurait une couche de glace de haute pression en profondeur. Alors, je vais vous montrer un petit film. C'est très facile, entre guillemets, de faire geler de l'eau. Il suffit de prendre de l'eau liquide et de la comprimer. Elle gèle. Vous décomprimez, elle fond. Vous comprimez, elle gèle. Alors, on comprime avec des presses un peu plus élaborées que ça. Des enclumes à cellules de diamant. Donc, ça, c'est une photo d'enclume à cellules de diamant. Là, c'est le joint. Il suffit de mettre une goutte d'eau dans le joint. On comprime. Comme les diamants sont transparents, on regarde au microscope. Et voilà ce que ça va donner. Donc, on va avoir un champ de microscope. Enfin, en fait, c'est le champ, le trou dans le joint dans lequel on a mis une goutte d'eau qu'on regarde au microscope. Vous verrez de la glace et de l'eau. Quand on comprime, la glace augmente de taille. Et quand on décomprime, la glace fond et diminue. On comprime, etc. Donc, si vous voulez montrer à des élèves, ce film est disponible sur Planète Terre, hein, libre de droit. Si vous voulez montrer à des élèves que comprimer, ça fait cristalliser et décomprimer, ça fait fondre, c'est très facile. Voilà, la glace, l'eau liquide. Là, je comprime. Je décomprime, la glace fond. La glace fond, la glace fond, la glace fond, la glace fond, la glace fond. Je recomprime, la glace cristallise, avec un beau cristal bioctaédrique, système cubique à face centrée. Alors, c'est pas de la même phase que nous, c'est pas de la glace normale, c'est de la glace qu'on appelle 6. Je décomprime, ça fond, je recomprime, etc. Vous pouvez vous amuser tant que vous voulez. Donc, si vous avez un solide, de la glace, vous décomprimez, ça fond. Mais si vous avez de l'eau liquide, vous comprimez, ça gèle. Alors là, on est à la température ambiante, on est à 25 degrés, au laboratoire à l'ENS de Lyon. Alors là, on ne le fait pas, mais c'est amusant, c'est que si vous prenez la cellule, la glace, elle est en bas. Si vous retournez la cellule, la glace tombe. Ce n'est pas la même glace que l'eau, elle est plus dense que l'eau. Donc c'est de la glace qui ne flotte pas. C'est pour ça qu'elle est en bas. Donc c'est pour ça que, passe une certaine profondeur, on va dire 300 km, simplement sous la pression. Alors sur Terre, ça gèle à 80 km, mais la gravité est plus faible, donc il faut atteindre 300 km. Et donc, l'eau liquide est prise en sandwich entre les glaces. Rappelez-vous ça, c'est très important pour la suite. Alors, ça c'est pour les gros satellites, on a 4 gros satellites de glace, a priori suffisamment assez chaud pour qu'il y ait de l'eau liquide. Et les plus petits, qui sont quand même les majorités, eh bien, peut-être intellectuellement, ils pourraient l'être, parce que quand on n'est pas trop loin d'une grosse planète, on a Pio à côté de Jupiter, il y a des déformations de marée qui donnent une source d'énergie qui peut faire des choses exorbitantes. Pio, c'est la taille de la Lune, c'est du silicate, c'est en fait aussi mort que la Lune, au point de vue géodynamique interne. Or, c'est absolument pas mort. Il y a des éruptions volcaniques, alors ça tout le monde connaît, des panaches d'éruptions volcaniques. J'aime mieux des machins comme ça, c'est un lac de lave qui fait 50 km de long, 10 km de large, et qui glougloute. La lave bien rouge qui glougloute, la lave est à plus de 1500 degrés Celsius, donc c'est même pas du basalte. Le basalte, c'est probablement de la comatite, de la péridotite fondue. Donc, les marées peuvent chauffer les satellites de cailloux. Est-ce que les marées peuvent chauffer suffisamment des petits satellites pour qu'ils soient liquides? C'est au moins le cas d'un de ceux-là, c'est le cas d'Encelade, dont on a parlé il y a 3-4 jours, je vous verrai pourquoi tout à l'heure. Ça c'est Encelade qui fait 502 km de diamètre, qui tourne autour de Saturne, que vous voyez ici. C'est pour la beauté de la chose, parce que c'est beau, hein, les anneaux de Saturne et Encelade. Et si on regarde Encelade, à part quelques secteurs où il y a des cratères de météorites comme ici, il n'y a aucun cratère de météorite. C'est-à-dire que c'est tout jeune, c'est un satellite extrêmement actif. Quand vous regardez, manifestement, il y a quelque chose qui bouge là-dessous, ça a été actif. Est-ce qu'il y a de l'eau liquide? Eh bien, on a eu la preuve qu'il y a de l'eau liquide en 2006 ou 2007, quand on a vu à contre-jour, c'est à contre-jour que ça se voit bien, des panaches de vapeur qui sortent. Évidemment, quand la vapeur qui sort arrive dehors, où il fait moins 250 degrés, moins 200 degrés, elle gèle, coïncide des bouffées de givre, si je puis dire. Donc, il y a des volcans ou des geysers actifs. Alors, et ça sort par des fractures, que vous voyez là. C'est extraordinaire. Là, c'est des photos prises en 2008. Là, c'est des photos prises en 2010, sous un autre éclairage. Alors, je pourrais bientôt plus vous montrer de ces photos-là, parce que c'est l'hiver approche, et on est près du pôle sud, à ce moment-là, et le pôle sud rentre dans la nuit polaire. La sonde Cassini est arrivée il y a longtemps, elle marche encore, mais ça met les années durent 30 ans, là-bas. Donc, l'hiver dure 15. Je ne sais pas si dans 15 ans, la sonde marchera encore, pour revoir, mais vous savez, vous pouvez dire adieu visuellement au geyser ou au volcan d'Encelade. Donc, la structure de la chose, là encore, je résume tous les modèles, c'est qu'on a le fer, le silicate, c'est vraiment, rappelez-vous, c'est pas gros, hein, 250 km. Vous avez la couche de glace, et dessous, simplement au pôle sud, de l'eau liquide. Alors, pourquoi au pôle sud? Si l'eau liquide est partout, il n'y a pas de problème, si l'eau liquide est à un seul endroit, enfin pas partout, mais à un endroit, forcément, pour des sortes de rotation, ça se mettra au pôle nord ou au pôle sud, parce que c'est plus chaud, donc c'est plus léger, et quand on fait tourner, les choses les moins denses vont... Donc, si l'eau n'est pas partout, ce sera au pôle nord ou au pôle sud, là, il se trouve que c'est au pôle sud. Vous avez une couche d'eau liquide, et l'eau sort par des fractures, et ça fait des espèces de geysers qu'on a vu. Et là, j'ai mis une ligne rouge pointillée, l'eau touche les silicates. Le satellite est tout petit, il n'y a pas de gravité importante, donc il n'y a pas de glace de haute pression. Ça, c'est extrêmement important. On verra tout à l'heure, l'eau touche les silicates. Alors, dernier corps où on va chercher de liquide, c'est Europe. Alors là, il est bien connu. Qui a à peu près la taille de la Lune, qui est autour de Jupiter aussi. Voici Europe, c'est une boule de billard rayée. C'est un paysage extraordinaire. Et alors, la densité est de 3,04. Donc, c'est principalement du caillou. Mais si vous prenez une densité de chondrite, on devrait plutôt être à 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 5. C'est un peu léger. Et la surface, c'est ça, et ça, c'est du spectre de la glace. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on a beaucoup de cailloux plus fer, mais quand même pas mal d'eau, qui se trouve en surface, évidemment, qui est gelée vu la température, moins 150 en plein midi, en plein été, en plein soleil, et moins 220 la nuit. Et si on suppose que c'est des silicates normaux, de l'eau normale, etc., la structure, c'est qu'on aurait à peu près un océan, entre guillemets, d'une centaine de kilomètres d'épaisseur, pour 1700 km de rayon. Donc, vous avez une couche d'eau, a priori gelée, qui fait une centaine de kilomètres d'épaisseur, et puis dessous, une petite terre. Alors, quand on regarde la surface d'Europe, c'est complètement tourmenté. Alors, il y a des couleurs qui montrent qu'il y a des impuretés assez extraordinaires, on ne sait pas trop ce que c'est. Et la surface est tourmentée comme la surface d'une banque. Ça c'est Europe aussi. Et ça, c'est la surface d'une banquise vue d'avion. Comme si ce machin-là dérivait sur ce qu'il y a dessous. Alors, on va faire une série de zooms sur ce qu'on a d'Europe. Donc, à chaque fois, on zoome. On zoome, on arrive à ça. Et quand on voit ça, on ne peut pas ne pas penser à une
une analogie de ce type-là, des glaçons qui dérivent par rapport à une mer qui vient à peine de geler. Alors ça, c'est très intéressant, si on prend cette hypothèse, c'est que depuis Archimède, ça fait quand même de 1200 à 2300 ans, on sait que la hauteur d'un iceberg, ça ne dépend pas de la gravité, c'est à peu près le dixième de la partie immergée, hein, c'est des murs de sûreté. Et par exemple, si vous avez un paysage comme ça, vous avez ici un gros glaçon, mais donc qui fait 10 mètres d'épaisseur, ça veut dire que c'est un iceberg qui fait 100 mètres d'épaisseur, c'est un morceau de glacier en Arctique. Par contre là, vous avez un machin qui fait 1 mètre d'épaisseur, les manchots donnent l'échelle, donc c'est un machin qui fait 10 mètres, c'est un morceau de banquise. Donc, avec ce qui dépasse, on peut connaître l'épaisseur. Alors, là, ça dépasse d'un mètre, donc j'ai un glaçon qui fait une dizaine de mètres. Là, ça dépasse de 10 mètres, donc j'ai un glaçon qui fait une centaine de mètres. Et là, c'est sur Terre, la preuve, il y a des poissons. Sur Europe, je peux interpréter mon paysage de cette façon-là. J'ai des glaçons qui dérivent sur une mer à peine gelée. Les falaises mesurent, ça dépend des endroits, entre 500 et 3000 mètres. Ça veut dire que la banquise, dans cette hypothèse, mesure entre 500 et 30 km. Or, rappelez-vous que l'océan, la partie haut, mesurait une centaine de kilomètres. Donc si la banquise mesure de 500 à 3000 mètres, de 5000 à 30 000 mètres, et si l'océan fait 100 km, eh bien, l'océan encore liquide fait de 70 à 95 km d'épaisseur. Donc, dans ce schéma-là, ça doit ressembler à ça, Europe, avec beaucoup de place pour mettre de l'océan. Et pourquoi ça serait chaud? Parce qu'il y aurait là-dessous des volcans qui chaufferaient. C'est comme Io, c'est pas bien loin de Io, ça chauffe moins que Io. Et il y a un équilibre entre le refroidissement par l'extérieur et le chauffage par en bas, et l'équilibre, ça serait cette structure comme ça. Là encore, j'ai dû le mettre. Voilà à quoi... Alors l'orbite est très compliquée, l'orbite d'Europe est très compliquée. Des fois, ça chauffe plus que d'autres en fonction de l'orbite. Alors, quand ça chauffe plus, ça, c'est des modèles, on aurait donc quasiment une banquise très fine, avec sans doute des volcans, des panaches, vous imaginez tout l'hydrothermalisme qu'on peut mettre là-dedans. Et puis, quand l'orbite est plus circulaire, ça, l'orbite varie, la glace gèlerait et on n'aurait qu'une couche d'eau beaucoup plus faible en bas, mais ça serait quelque chose comme ça. Suivant les endroits, les époques, on aurait ces différents trucs. Alors là, l'artiste a mis des geysers, pour l'instant. Bah, voilà. Et la gravité est assez faible. Si on était sur Terre, ça commencerait à geler en bas, mais la gravité est 6 fois plus faible que sur Terre. Donc, l'eau liquide est en contact avec les silicates. Il n'y a pas de glace de haute pression ici. Sur Ganymède, il faut aller à 400 ou 500 km, enfin 300-400 km. Là, il n'y a que 100 km d'eau, ça ne permet pas de geler. Donc, tout ça permet de revoir la notion très, trop classique de fenêtre d'habitabilité, qui traîne dans tous les mauvais livres. Et, enfin, voilà ce qu'on raconte. Il y a une distance par laquelle il fait trop chaud, ou trop... on parle que de liquide toujours, trop chaud d'un côté, trop froid de l'autre. Alors suivant la taille de l'étoile, on est plus ou moins près de l'étoile, pour le soleil on est dans... comme par hasard, Mars, la Terre est à la... juste à la bonne distance, hein, Dieu nous a mis là, paf. Ça, c'est bien si on parle de la surface. Mais on vient de voir que de l'eau liquide, je parle que de liquide, il y en a, même aujourd'hui, à l'intérieur de Mars, des satellites de Jupiter, de Saturne, etc. Donc, la notion de zone d'habitabilité, c'est très vrai si on rajoute en surface. Si on ne met pas en surface, c'est n'importe quoi. Si vous êtes en surface, c'est très bien. Mais au-delà, il n'y a pas de notion de trop froid, parce qu'il suffit de s'enfoncer pour qu'on ait l'eau liquide, donc potentiellement la vie. Je ne sais pas si elle y est, mais il n'y a pas de limite froide à la zone d'habitabilité. Il serait temps que l'éducation nationale, les médias et le grand public s'en rendent compte. Fin de la première caractéristique d'exigence, l'eau liquide.